les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1972, dans une émission de télévision où il était invité à donner son sentiment sur une pièce d'Eugène Ionesco, Vladimir Jankélévitch déclarait à propos de son auteur: nous savons depuis toujours qu'il est pour la contestation, contre le pouvoir absolu, qu'il déshabille l'homme et montre ses bas instincts. Il ajoutait: Ionesco est si profondément non-conformiste qu'on ne voit pas son non-conformisme. En 1975, dans les 9e et 10e épisodes d'une série de 12 entretiens accordés à Claudine Chonnaz, Ionesco disait son attachement aux prix et aux honneurs, mais semblait prendre plus de plaisir à évoquer son appartenance au collège de pataphysique que son élection à l'Académie française 5 ans plus tôt. Il évoquait aussi ses goûts littéraires, de Shakespeare à Michaud en passant par Kafka, et les raisons de ses réserves à l'égard du nouveau roman. Première diffusion sur France Culture, les 27 et 28 mars 1975.
Après donc les premiers succès qui sont venus de vos pièces, alors je signale que votre carrière a finalement été jonchée de récompenses. Vous ne pouvez pas trop vous plaindre de la société. Alors je parle d'un prix qui m'est particulièrement cher, parce que si vous vous en souvenez, j'y étais en 1951.
C'était le premier prix.
Alphonse Allais. Et je voudrais vous rappeler qu'au moment où on voulait distribuer le prix, le lauréat, bien entendu, avait disparu. Ça, c'est du Ionesco tout pur. Et que c'est moi qui suis allé vous rechercher, excusez-moi, au bistrot. Et qui vous est ramené, vous m'ayant juré que vous n'aviez bu que du sirop de grenadine, n'insistons pas, c'est moi qui vous ai ramené dans les bras du jury qui voulait vous couronner. Vous rappelez ce joyeux voyage d'Honfleur, qui était sous le signe d'ailleurs d'Alphonse Allais, puisque ça s'appelait le prix Alphonse Allais, et qui a été probablement pour vous peut-être la première récompense et la plus amusante.
Et c'est celle que j'ai le plus estimée. Parce que parmi tous mes titres, docteur honoris causa de Manille et de New York University.
De 25 universités, n'insistons pas.
Deux.
Pas plus.
Académie du Maine, Académie du Vaucluse, Académie des sciences et arts de Boston.
L'Académie française n'a plus qu'à bien se tenir.
Et puis l'Académie française. Tous ces titres n'ont pas d'importance aussi grande pour moi que le prix Alphonse Allais. Et je suis membre encore d'une autre académie que française, le collège de pataphysique, et je suis satrape de ce collège.
C'est-à-dire qu'on doit vous appeler votre transcendance.
Oui, c'est ça. Et vous, quand vous en allez, vous retirez à reculons. Les cahiers de pataphysique, eh bien, si on les lit, on voit que c'est extrêmement intéressant, extrêmement sérieux, malgré le canular. Et maintenant que l'on parle de démystification, les démystificateurs professionnels devraient lire ces cahiers du collège où tout est démystifié.
Alors, eux, ils ne sont pas sous le signe d'Alphonse Allais, mais sous le signe de Jarry, qui, je suppose, vous est également cher. Même oui. Peut-être plus, parce qu'il est peut-être plus important qu'Alphonse Allais, tout de même.
Oui, il est quand même plus important, oui. Alors, il y a des gens, il y avait quelqu'un parmi le collège de pataphysique, qui avait commencé une thèse de doctorat. Je ne sais pas si elle est terminée, et qui s'intitulait, ou qui devait s'intituler, « Histoire des chiottes de l'Antiquité jusqu'à nos jours ». C'est-à-dire, il s'agissait pour ce pataphysicien pur de mettre sur le même plan et accorder une égale valeur aux choses que l'on juge importantes, et aussi bien aux choses que l'on ne juge pas importantes. Alors, tout était ramené au même niveau. Vous voyez que c'est, malgré l'humour, c'est de la physique, et c'est une tentative très... un point de vue très, très pessimiste.
Oh oui, bien sûr. Est-ce que vous aimez les contrepétries ?
Oui.
Vous en faites quelquefois, vous en avez inventé? Vous qui aimez tellement les jeux de mots, les calembours, les assonances, les jeux de langage, comme que nous.
Oui,
j'en
ai fait quelques au début, mais pas beaucoup.
Alors, nous laissons tomber les prix très sérieux, mais que tout le monde connaît, comme le prix de Monaco, le Grand Prix Régnier de Monaco que vous avez eu en 69, le Grand Prix du théâtre, la même année d'ailleurs, c'est une année bénéfique, 69-70, puisque du prix du centenaire en question, nous passons directement à l'année 70, vous n'êtes plus centenaire, mais vous êtes immortel.
En 70, eh bien, j'ai été élu à l'Académie française. Et j'ai accepté avec joie les conseils de mes amis, dont Guy Dumur.
Oui.
Parce que j'aime les honneurs.
Vous m'avez même dit un jour j'aime les décorations aussi, mais je vous en ai jamais vu.
J'aime les décorations, mais je n'en ai pas beaucoup.
Oh.
J'espère que j'en aurai davantage.
C'est pour ça que vous voyagez.
Alors c'est pour
vous
ça
espérez
que...
le Nifty Mysticar un de ces jours,
c'est
et
ça,
puis
oui.
Je ne sais pas quoi, etc.
Oui, évidemment.
Oui, alors, à défaut de décoration, vous aimez l'uniforme.
Oui, bon. Je ne l'ai porté qu'une seule fois.
Ah, ben ça, écoutez, ça, c'est pas très sérieux.
Alors, non, ça, c'est pas très sérieux. Il faudra que l'Académie française est considérée, d'ailleurs, comme une section du Collège de pataphysique.
Ah, ben ça, c'est un honneur pour elle. Mais est-ce qu'elle s'en doute?
Il y a, en dehors de moi, un autre académicien qui s'en doute. C'est René Clair.
Ah oui, qui est aussi membre du Collège de pataphysique. Alors, vous êtes au moins deux à bien rigoler, si j'ose dire, derrière le bicorne. Cela dit, tout de même, à tort ou à raison, je ne me permets pas de prendre parti, l'Académie française passe pour le dernier rempart de la culture humaniste et conformiste, au sens bien bourgeois, bien établi du terme. Ce qui ne veut pas dire que ça manque de subtilité et, encore une fois, d'intelligence. Et alors, on vous a souvent même représenté, je le sais en caricature, avec un bicorne, et pour cause, un bicorne qui était justement les cornes du rhinocéros. Et on vous a par conséquent accusé d'être un peu devenu un rhinocéros bien embourgeoisé du seul fait que vous aviez accepté d'entrer à l'Académie française. Défendez-vous.
Oui, oui. Je dois dire que je n'ai... C'est-à-dire jamais rencontrer des gens aussi cultivés, aussi subtils, aussi libres d'esprit que les académiciens. Bon, vous savez que l'Académie française a parmi ses membres M. De Broglie, qui est un des créateurs de la physique moderne.
Bien sûr.
Il y a un grand naturaliste. Comme Jean Rostand.
Oui.
Bon, ben, je ne vais pas. Vous nommez les autres.
Les scientifiques sont hors concours.
Tous les gens, les intellectuels de deuxième, de troisième catégorie, ne savent pas ce que c'est. Et ils les haïssent parce qu'ils portent l'uniforme.
Mais tout de même, vous avez écrit,
oui.
Tous les écrivains doivent être des dynamiteurs. Vous ne pouvez tout de même pas considérer, sauf peut-être vous, mis à part les 39 autres, comme étant des dynamiteurs.
René Clair a été un dynamiteur.
C'est possible, est-ce qu'il l'est encore?
Mais ce n'est pas moi qui ai dit qu'un écrivain doit être dynamiteur, c'est Bernard Pivot qui m'a posé cette question à l'occasion d'une émission à la télévision. Je n'ai pas trop su quoi répondre sur le moment. Mes réflexions faites, je pense plutôt que les écrivains ne sont pas nécessairement des dynamiteurs. Le plus souvent, ils ne le sont pas. Ni Corneille, ni Racine n'étaient des dynamiteurs.
Oui.
Et si Molière était contre l'aristocratie, contre la société de son temps, il l'était avec l'encouragement et la bénédiction de Louis XIV.
Oui.
Dans les pièces japonaises, les plus grandes pièces, les chefs-d'œuvre, à mon avis, du théâtre universel, ne sont pas du tout des pièces dynamiteuses ou dynamitardes. Et les kabuki, non plus. Vous savez ce qui se passe dans un des kabuki les plus célèbres. Il y a un méchant conjuré qui veut assassiner le roi qui est un enfant pour renverser le régime et instituer un régime qu'on appellerait aujourd'hui révolutionnaire. Eh bien, vous ne savez pas ce qui arrive à ce conjuré. Il est découvert, c'est un traître, et on le tue. Vous voyez bien qu'il y a des cas, de nombreux cas, où la littérature n'est pas dynamitarde. Au contraire, non plus, je ne vois pas en quoi sont dynamitards, ennemis de la société, ou révolutionnaires, des auteurs comme Eschyle, Sophocle et autres.
Oui, vous savez, moi je relisais Eschyle tout récemment, ben vous savez, c'est finalement une drôle d'attaque contre les dieux qui imposent un destin extravagant aux Atrides qui n'y peuvent mais, qui ne comprennent pas pourquoi Jupiter contre Apollon et Apollon contre ont fait manger la chair des enfants à celui oui. qui se venge. Hein, ils n'y sont pour rien, les pauvres hommes. Ils sont oui, justement enfin, victimes des dieux.
Peut-être, ils n'en voulaient pas tellement à leur société, à mon avis. C'est maintenant que la morale a changé.
Oui, je suis d'accord.
Maintenant, on dirait que c'est le révolutionnaire qui est le bon.
Oui.
Et c'est celui qui est au pouvoir qui est le méchant.
Vous savez, le pouvoir est toujours injuste.
Mais,
par conséquent,
mais le pouvoir qui va venir est encore plus injuste que le pouvoir injuste qui existe maintenant.
Vous ne savez rien.
Mais depuis aussi, parce que moi je reçois beaucoup de gens qui viennent de Pologne, qui viennent de Roumanie, qui viennent de Hongrie, qui viennent de Tchécoslovaquie, et je sais à peu près ce qui se passe. Ils sont absolument abasourdis quand ils rencontrent les gens distingués du 16e arrondissement qui sont communistes et qui veulent leur propre mort. Ils ne sont pas antisocialistes, les gens qui sont là-bas, mais ils se rendent compte que la révolution, par la haine et par la violence, entraîne une suite oui. sans fin de violence.
Bon,
Que s'insurgent tous ces martyrs et tous ces saints russes d'aujourd'hui.
Moi, je voulais dire simplement que de toute façon, on vous pardonne, si on peut dire, d'être enterré en classe. À l'académie, parce qu'il paraît que vous êtes un mauvais élève, hein, et que la classe vous la fauchez de temps en temps.
C'est parce que j'habite beaucoup la campagne. J'y viens, mais très rarement.
Vous y allez aussi souvent que vous pouvez.
Très rarement.
Et alors, vous collaborez à un alphabet qui est tout ce qu'il y a de plus anti-révolutionnaire. Au nom de la cantatrice chauve, voudriez vous amuser à placer le Z
mais
avant le W.
Il y a eu malentendu quand on a dit, par exemple, que la cantatrice chauve, c'était la parodie du langage petit bourgeois, d'accord, mais c'est la parodie des personnages, d'abord ce malaise existentiel exprimé, qu'est-ce que ça veut dire, ce monde qui n'a ni queue ni tête. Et alors si les personnages apparaissent comme petits bourgeois, ce sont des petits bourgeois de tous les régimes. Parce qu'il y a des petits bourgeois français, il y a des petits bourgeois américains, il y a des petits bourgeois soviétiques. Les personnages de la cantatrice, ce sont des gens qui n'existent pas. Qui vivent, n'est-ce pas, sur l'emprise de slogans, du monde impersonnel. C'est tous les clichés du monde impersonnel, slogans qui les pénètrent, qui les traversent.
En somme, même du temps de la cantatrice chauve, on pourrait dire que vous n'avez pas voulu littéralement tout chambarder, au sens où l'entendaient les surréalistes, tout mettre tête par-dessus, etc. Mais que vous montriez simplement que justement l'absurde existait dans la vie quotidienne et au fond c'était au nom d'une certaine harmonie peut-être possible que vous contestiez cette anarchie stupide de la vie quotidienne, ce non-sens de la vie quotidienne.
Oui, mais
c'était au nom d'une espèce de raison.
Oui, c'est-à-dire, comme je le disais, ce sont des gens traversés par...
Oui,
par
vous ne défendiez pas au fond l'irrationnel, vous le montriez, ce qui est différent.
Oui.
Oui.
Non, je voulais vous dire que je ne crois pas à la révolution, étant donné tout ce qui se passe. Mais si mon théâtre était plus ou moins dynamitard, quand même il l'a été, puisqu'il a attiré tant de critiques violentes, mais je crois que la révolution est dans le langage. c'est-à-dire un nouveau langage, incite les gens à penser autrement.
Oui.
Et c'est à partir de cela qu'il peut y avoir des changements.
Oui, sûrement.
C'était le 9e volet d'une série de 12 entretiens avec Eugène Ionesco menée par Claudine Chaunez et diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 mars 1975. Tout de suite, le 10e moment de cette rencontre.
Je voudrais vous demander, en tant, disons, que lettré et humaniste, alors quels sont vos livres préférés? Vous disiez que vous lisiez très peu, c'est pas bien pour un académicien.
Mais non, je recommence maintenant. J'ai passé par une mauvaise période où rien ne m'intéressait.
Oui, dans les livres qui paraissent, et dans la mesure où vous avez le temps de lire, on comprend très bien qu'un créateur a autre chose à faire que de lire. Qu'est-ce qui vous intéresse? Quels sont vos grands livres, ceux que vous avez adorés ou ceux que vous relisez? Alors dites-moi d'abord, quel est le genre de choses qui vous intéresse dans ce qui paraît?
Oh, cela varie. Pour le moment, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la littérature pure. C'est-à-dire que je trouve que la littérature n'est pas importante. Elle n'est rien si elle ne peut pas ouvrir certaines perspectives. Elle ne donne pas de réponse, mais elle pose le problème. En tout cas, je considère que le nouveau roman, par exemple, c'est du bricolage littéraire. Je crois que c'est un formalisme et je crois que c'est une impasse. Par contre, évidemment, vous comprendrez pourquoi j'aime beaucoup Pasternak ou Solzhenitsyn ou Madame Mandelstam.
Votre déclaration sur le nouveau roman m'intéresse. Je savais d'avance d'ailleurs à peu près sûrement ce que vous alliez répondre. Et je ne le comprends pas toujours, parce que si on examine bien ce qu'on appelle d'une façon beaucoup trop générale le nouveau roman, il y a tout de même des éléments importants qui sont absolument identiques à ceux que vous cherchez dans votre théâtre, et en particulier, naturellement, dans votre premier théâtre. Je veux dire, par exemple, le vide du personnage, l'absence de psychologie du personnage, le personnage qui n'est qu'un type. C'est le premier truc commun à tous les gens du nouveau
c'est
roman.
Évident, hein? C'est évident.
Bon, ça, c'est votre théâtre.
C'est évident.
Je continue. Évident. Par exemple, la critique du langage rationnel, c'est tout ce que fait Nathalie Sarraute quand elle cherche, sous le langage de la conversation ordinaire, ce que l'inconscient a pu... C'est une démarche qui vous est familière. Je prends un troisième exemple, la présence obsédante, sinon la prolifération, comme dans votre théâtre, des objets. C'est les premiers romans de Robe Grillet et bien d'autres. Cette description obsédante, je peux pas mieux dire, des objets qui semblent envahir peu à peu la scène du roman, au détriment justement de l'existence rationnelle et psychologique du personnage. Le caractère disparaît et les gestes et les objets prennent une importance qui peut sembler à certains démesurée. Mais c'est votre théâtre. Vous devriez aimer le nouveau roman.
Lorsque je disais que je n'aime pas du tout le nouveau roman, c'est une façon de parler. Je l'aime et je ne l'aime pas. Mais je considère qu'il a abouti à une impasse. Dans Les Chaises ou dans Le Nouveau Locataire que j'ai écrite, il y avait les objets, mais il y avait aussi, à travers ça, une certaine souffrance, une vie passionnelle.
Oui.
C'est-à-dire que mes personnages ne sont pas engloutis par les objets, ils luttent.
C'est exact, oui, c'est juste. Il n'y a pas de commentaire du tout. Mais néanmoins, l'angoisse y est, à mon avis. Je l'y trouve dans le seul fait de cette absence totale d'individualisation des personnages et dans la prolifération des autres. Moi, je l'y trouve. Mais enfin, il faut dire qu'elle n'est absolument pas indiquée. Ça, c'est exact. Et puis enfin, vous ne devez pas aimer ce style, justement. Maintenant que vous avez pris un style un peu ce que j'appelle lyrique, éloquent, classique...
Dans le nouveau roman, le lecteur est de plus en plus englouti. Il est empêché d'imaginer quelque chose. On lui fourre les objets sous le nez. Ils sont là de plus en plus accablants. Quand on dit, par exemple, j'ouvre la porte, je mets ma main sur la porte, j'ouvre, je tourne la clé dans la serrure.
Trois pages pour décrire un geste.
C'est ça. Oui. Alors, ça tue l'imagination de celui qui lit. Il est embourbé là-dedans.
Oui.
Tandis que si je dis « il ouvrit la porte et il entra », je m'imagine le personnage. Oui. Je le vois faire et j'ai une liberté d'imagination que le nouveau roman, qui englue tout le monde dans les objets, il y a donc une possibilité d'imagination que le nouveau roman ne donne pas.
Repassons aux anciens. Alors, qui aimez-vous parmi les anciens depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours?
Shakespeare, Leno, certaines pièces du théâtre yiddish.
Oui, mais parlons pas forcément théâtre. Hein.
Le Kafka.
J'ai parlé des livres que vous lisiez.
Le Kafka.
Oui, je me suis laissé dire que vous aimiez beaucoup Platon, mais très particulièrement non.
Oh oui, oui, enfin...
Ouais, bon, on ne peut pas ne pas aimer Platon,
bien
sûr. On
ne peut pas ne pas aimer Platon.
Mais enfin...
Alors, je ne dirais pas que j'aime Platon.
Oui.
J'aime peut-être...
Les tragiques antiques.
J'ai lu Plotin, peut-être, avec plus de plaisir.
Vous aimez beaucoup Saint-Augustin.
Oui, je le relis. En France, disons, Flaubert, Zola, qui écrit avec maladresse.
Oui.
S'ils sont trop adroits, les gens du nouveau roman aussi, ça fait trop littéraire.
Oh, Robe Grillée, redoutablement habile.
J'aime mieux l'impétuosité de Zola, comme
oui.
J'aime l'impétuosité et la passion de Solzhenitsyn.
Puis alors, il y a les poètes. Baudelaire vous est toujours très cher. Rimbaud.
Un peu moins, Baudelaire.
Ah,
maintenant.
Pourquoi? Vous l'adoriez à 20 ans.
Oh, je l'ai adoré pendant très longtemps, mais maintenant j'ai quelques petites choses que je n'aime pas.
C'est l'homme dans la vase, malgré
oui,
le...
Oui, c'est par exemple « Je suis belle au mortel comme un rêve de
oui.
pierre et mon sang chacun se meurtrit, toi, tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel
et muet, ainsi que la matière. »
Alors, vous la voyez, cette statue.
Oui.
C'est du plus pur style pompier.
Rimbaud.
Oui, de beaucoup.
Pour vous, c'est tout de même celui qui, jusqu'à présent, est le plus grand.
Oui.
Est-ce que vous vous intéressez à la poésie actuelle? Vous ne la connaissez pas. Elle est souvent, il faut bien le dire, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais très
oui, oui.
ennuyeuse, ce qu'on d'ailleurs on appelle bon, quelquefois la poésie de laboratoire.
Oh, je me suis arrêté à Supervielle, Jouve, René Char, Aragon, un peu plus rhétorique, mais, et surtout Michaud.
Michaud doit vous plaire infiniment. Oui. Monsieur Plume, c'est Monsieur Ionesco, n'est-ce pas?
Très flatté.
Si nous passions un peu au caractère personnel de l'individu, Eugène Ionesco, moi qui vous connais bien, j'ai tendance à penser, sans aucune flatterie, c'est une espèce d'intuition comme ça, que vous êtes très bon, fondamentalement, très tendre même. Mais il me semble que vous cachez ça soigneusement sous une apparence qui est bien connue, d'un être... très souvent bourru, méfiant et voire même agressif. Alors, il y a aussi... Vous êtes bourri d'ailleurs de contradictions, vous le savez très bien. Je pourrais presque dire que vous en jouissez d'une certaine façon. Vous n'essayez pas du tout d'avoir en vous une unité. Vous êtes vraiment comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, très spontané. Et par conséquent, vous dites tout ce qu'il vous passe par la tête et ça porte
vous
souvent
disiez,
des jugements contradictoires. Exact.
Vous disiez que j'ai une sorte de bonté
je crois, oui.
que je cache.
Oui, j'ai l'impression, oui.
Alors, je ne sais... ça me fait plaisir que vous disiez ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Laissons la bonté... caché dans son nid.
Bon, vous êtes orgueilleux.
Je suis peut-être orgueilleux. Une partie de moi est orgueilleuse. Une autre partie, d'ailleurs, parler de moi, parler du moi à notre époque, ça fait plutôt dépasser. C'est un carrefour de forces antagonistes qui sont nouées et qui se dénouent.
Oui, mais en fait, vous êtes tout de même très occupé. Vous donnez l'impression de quelqu'un très occupé de votre moi. Et alors là aussi, d'une façon absolument contradictoire, tantôt vous vous êtes fait indiscutablement des ennemis, en disant presque, comme je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, Shakespeare et Ionesco, alors les gens poussent des hurlements, et d'autres fois
mais
vous
si
dites
je dis ça,
je suis
c'est
un
pour,
homme fichu.
C'est pour énerver les gens.
Ah, mais je sais bien. Je dis que vous vous faites des ennemis exprès. Et tantôt, alors vous dites au contraire, alors un excès d'humilité, je suis un homme fichu, enfin, en tant que créateur, je me dis toujours, mon cher, ta dernière pièce ne vaut rien, ou c'est la prochaine qui ne vaudra rien, si d'ailleurs tu es capable de l'écrire, et probablement tu ne seras pas capable de l'écrire.
Et ça dure depuis 25 ans.
Oui, je sais. Une complète contradiction en vous, entre les mouvements excessifs d'orgueil et d'humilité.
Je laisse et aux autres alors, le choix de juger
alors,
votre analyse.
Vous, c'est un fait que vous avez semblé prendre plaisir à donner de vous, vis-à-vis du monde, vis-à-vis des gens, un portrait de quelqu'un qui est méfiant et agressif. Vous avez été 20 fois... Mais vraiment très méchant. Je ne prendrai qu'un exemple. Bon, avec Sartre. Vous n'aimez pas Sartre, c'est votre droit.
Non, non, en ce moment, elle est très malade.
Vous voyez, ça prouve votre gentillesse, au fond. C'est pas digne de vous, par exemple, d'accuser Sartre d'être laid de visage. Vous l'avez traité de sot, d'inhumain et de laid de visage. D'autant plus que vous avez dit sur tous les tons que vous n'étiez pas content de votre visage, à vous. Alors, c'est vraiment pas gentil d'accabler un adversaire qui, évidemment, ne passe pas pour être Apollon.
Oui, c'est pas gentil, je le reconnais, mais... J'avais des raisons. J'ai des raisons de lui en vouloir.
Ah oui, à titre personnel.
Ah, pas du tout. Lorsque Sartre a écrit L'être et le néant,
oui.
J'ai été tout de suite séduit par son esprit.
Oui.
Quand il voulait constituer une sorte de parti politique, une troisième force,
oui.
J'étais tout à fait d'accord avec lui.
Ah, le RDR.
Je ne le connaissais pas. Et bon, j'ai été le premier à en avoir parlé dans un
et vous avez
journal
vu d'ailleurs des articles
au Brésil.
Dans les temps modernes, dans les années qui ont suivi la guerre, on a fait des articles sur vous extrêmement élogieux dans les temps modernes.
Bon, je l'ai déjà dit 100 fois ce que je lui reprochais. Je lui reprochais d'avoir connu la réalité des camps de concentration et d'hôpitaux psychiatriques en Russie, il y a déjà longtemps, puisque c'est David Rousset qui lui a donné cette documentation, il a eu ça tout le temps, il a réfléchi une nuit et il a dit non, je ne vais pas faire connaître ça parce que ça ferait trop plaisir aux bourgeois. Alors d'avoir caché une vérité parce qu'il le hait, les autres, c'est-à-dire en réalité les siens, c'est-à-dire soi-même, cela m'a paru inadmissible, surtout.
Oui, d'accord.
Maintenant, c'est éclaté. Mais je dois dire que des livres comme La Nausée, des pièces comme Huis clos, ont été pour moi des révélations.
Forcément.
On m'accuse d'être imposteur, d'être fumiste, dans la presse, par-ci, par-là, justement parce que je ne le suis pas. Je n'ai absolument aucun intérêt d'être, comme il m'arrive maintenant, contre les gens de mon milieu avec qui je pourrais être ami et qui pourraient m'aider dans ce qu'on appelle une carrière. C'est ça mon métier d'ailleurs, de dire tout ce que j'ai sur le cœur. Et cela va contre ma propre réputation, je le sais. Ça m'isole davantage dans mes retranchements. Mais je ne puis pas faire autre chose, malgré tous les dommages que ça peut me provoquer. Parce que j'aurais très bien pu me taire et faire des pièces de théâtre sans sortir du métier d'écrivain.
Thank you.
C'était les 9e et 10e volets d'une série de 12 entretiens avec Eugène Ionesco, menée par Claudine Chonnaz et diffusée pour la première fois sur France Culture les 27 et 28 mars 1975. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.